Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Nous vous proposons à partir d'aujourd'hui quelques belles pages extraites du roman Une vie de boy de l'auteur camerounais Ferdinand Léopold Oyono, né le 14 septembre 1929 et mort le 10 juin 2010 à Yaoundé. Tundi, un jeune noir, est accueilli puis élevé par un religieux blanc suite à une altercation avec son géniteur. Il quitte donc son pauvre petit village, Fia, pour devenir le boy du père Gilbert au sein de la mission catholique Saint-Pierre de Danga. Au fil du récit, Tundi, jeune boy noir, va tenir un journal personnel et se muer en véritable observateur des habitudes de vie du colon blanc et de tout son système. L'extrait de ce jour ouvre le premier cahier du journal de Tundi en Doua, ou plutôt Joseph.
Je m'appelle Tundi Ondoa. Je suis le fils de Tundi et de Zama. Depuis que le père m'a baptisé, il m'a donné le nom de Joseph. Je suis Maka par ma mère et Ngem par mon père. Ma race fut celle des mangeurs d'hommes. Depuis l'arrivée des Blancs, nous avons compris que tous les autres hommes ne sont pas des animaux. Au village, on dit de moi que j'ai été la cause de la mort de mon père parce que je m'étais réfugié chez un prêtre blanc à la veille de mon initiation, où je devais faire connaissance avec le fameux serpent qui veille sur tous ceux de notre race. Le père Gilbert, lui, croit que c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit jusqu'à lui. À vrai dire, je ne m'y étais rendu que pour approcher l'homme blanc aux cheveux semblables à la barbe de maïs, habillé d'une robe de femme qui donnait de bons petits cubes sucrés aux petits noirs. Nous étions une bande de petits païens à suivre le missionnaire qui allait de case en case pour solliciter des adhésions à la religion nouvelle. Il connaissait quelques mots Ngem, mais il les prononçait si mal qu'il leur donnait un sens obscène. Cela amusait tout le monde, ce qui lui assurait un certain succès. Il nous lançait ses petits cubes sucrés comme on jette du grain aux poules. C'était une véritable bataille pour s'approprier l'un de ces délicieux morceaux blancs que nous gagnions au prix de genoux écorchés, d'yeux tuméfiés, de plaies douloureuses. Les scènes de distribution dégénéraient parfois en bagarres où s'opposaient nos parents. C'est ainsi que ma mère vint un jour à se battre contre la mère de Tinati, mon compagnon de jeu, parce qu'il m'avait tordu le bras pour me faire lâcher les deux morceaux de sucre que j'avais pu avoir au prix d'une hémorragie nasale. Cette bataille avait failli tourner en massacre, car des voisins luttaient contre mon père pour l'empêcher d'aller fendre la tête au père de Tinati qui lui-même parlait de transpercer l'abdomen de papa d'un seul coup de sagaie. Quand on eut calmé nos parents, mon père, l'œil mauvais, armé d'un rotin, m'invita à le suivre derrière la case.
C'est toi, Tundi, la cause de toutes ces histoires. Ta gourmandise nous perdra. On dirait que tu ne manges pas assez ici. Tu éprouves encore le besoin, à la veille de ton initiation, de traverser un ruisseau, puis aller quémander des morceaux de sucre à cet homme-femme blanc que tu ne connais même pas.
Je le connaissais, lui, mon père. Il avait la magie du fouet. Quand il s'en prenait à ma mère ou à moi, nous en avions au moins pour une semaine à nous remettre. J'étais à une bonne distance de sa chicotte. Il la fit siffler dans l'air et s'avança vers moi. Je marchais à reculons.
Tu veux t'arrêter, oui? Je n'ai pas de bonnes jambes pour te poursuivre. Tu sais bien que je t'attendrai 100 ans pour te donner ta correction. Viens ici pour qu'on en finisse.
Je n'ai rien fait, père, pour être battu.
Ah, qui est? Tu oses dire que tu n'as rien fait? Si tu n'avais pas été le gourmand que tu es, si tu n'avais pas le sang des gourmands qui coule dans les veines de ta mère, tu n'aurais pas été à Fia pour disputer comme un rat que tu es ces choses sucrées que vous donne ce maudit blanc. On ne t'aurait pas tordu les bras. Ta mère ne serait pas battue. Et moi, je n'aurais pas éprouvé l'envie d'aller fendre le crâne du vieux Tinati. Je te conseille de t'arrêter. Si tu fais encore un pas, je considérerai cela comme une injure et que tu peux coucher avec ta mère.
Je m'arrêtai. Il se précipita sur moi et fit siffler le rotin sur mes épaules nues. Je me tortillais comme un ver au soleil.
Tourne-toi et lève les bras. Je n'ai pas envie de te crever un œil.
Pardonne-moi, père, je ne le ferai plus.
Tu dis toujours cela, je commence à te battre.
Mais aujourd'hui, je dois te battre jusqu'à ce que je ne sois plus en colère.
Je ne pouvais pas crier, car cela aurait pu ameuter les voisins et mes camarades m'auraient traité de fille, ce qui signifiait l'exclusion de notre groupe, jeunes qui seront bientôt des hommes. Mon père me donna un autre coup que j'esquivai de justesse.
Si tu esquives encore, c'est que tu peux coucher avec ta grand-mère, ma mère.
Pour m'empêcher de me sauver, mon père usait toujours de ce chantage qui m'obligeait à me livrer gentiment à ses coups. Je ne t'ai pas insulté. Je ne peux pas coucher avec ma mère, ni avec la tienne. Je ne veux plus être battu et c'est tout.
Tu oses me parler sur ce ton? Une goutte de mon liquide qui me parle ainsi. Arrête-toi ou je te maudis.
Mon père suffoquait. Jamais je ne l'avais vu aussi exaspéré. Je continuais ma marche à reculons. Il me poursuivit ainsi derrière les cases pendant une bonne centaine de mètres.
Bien, je verrai où tu passeras la nuit. Je dirai à ta mère que tu nous as insultés. Pour entrer dans la case, ton chemin passe par le trou de mon anus.
Sur ce, il me tourna le dos. Je ne savais où me réfugier. J'avais un oncle que je n'aimais pas à cause de ses courtes de gale. Sa femme sentait comme lui le poisson avarié. Il me répugnait d'entrer dans leur massure. Il faisait nuit. La lumière intermittente des lucioles devenait visible. Le bruit des pilons annonçait le repas du soir. Je revins doucement derrière notre case et regardai à travers les lézardes du mur de terre battue. Mon père me tournait le dos. L'oncle dégoûtant était en face de lui. Il mangeait. La rhomme du porte-pic que nous avions trouvé à moitié dévorée par les fourmis, pris depuis 2 jours à l'un des pièges de mon père, me donnait de l'appétit. Ma mère était réputée au village pour son assaisonnement du porte-pic.
« C'est bien le premier de la saison, »
dit mon oncle, la bouche pleine. Sans mot dire, mon père pointa son index au-dessus de sa tête. C'était à cet endroit qu'il alignait tous les crânes des bêtes qu'il prenait au piège.
« Mangez tout, »
dit ma mère.
« J'ai gardé la part de Tundi dans la marmite. »
Mon père se leva d'un bond et à son bégaiement, je compris que ça allait barder.
« Apporte la part de Tundi ici. Il ne mangera pas de ce porc épic. Cela lui apprendra à me désobéir. »
« Tu sais, il n'a encore rien mangé depuis ce matin. Que mangera-t-il quand il rentrera ?»«
Rien du tout, »
coupa mon père.
« Si vous voulez qu'il vous obéisse, »
ajouta mon oncle,
« privez-le de nourriture. Ce porc épic est fameux. »
Ma mère se leva et leur apporta la marmite. Je vis la main de mon père et celle de mon oncle y plonger. Puis j'entendis ma mère pleurer. Pour la première fois de ma vie, je pensais à tuer mon père. Je retournai à Fia et, après avoir longtemps hésité, je frappai à la case du prêtre blanc. Je le trouvai en train de manger. Il s'étonna de ma visite. Je lui expliquai par geste que je voulais partir avec lui. Il riait de toutes ses dents, ce qui donnait à sa bouche une apparence de croissant de lune. Je me tenais coi près de la porte. Il me fit signe d'approcher. Il me donna les restes de son repas qui me parut étrange et délicieux. Par geste, nous poursuivîmes notre conversation. Je compris que j'étais agréé. C'est ainsi que je devins le boy du révérend père Gilbert. Le lendemain, la nouvelle parvint à mon père. Je redoutais sa colère. Je l'expliquai au père toujours en gesticulant. Cela l'amusait beaucoup. Il me tapota amicalement l'épaule. Je me sentis protégé. Mon père vint l'après-midi. Il se borna à me dire que j'étais et resterais son fils, c'est-à-dire sa goutte de liquide, qu'il ne m'en voulait pas et que si je rentrais au bercail, tout serait oublié. Je savais ce que signifiait ce beau discours devant le blanc. Je lui tirai la langue. Son œil devint mauvais comme d'habitude lorsqu'il se préparait à m'apprendre à vivre. Mais avec le père Gilbert, je ne craignais rien. Son regard semblait fasciner mon père qui baissa la tête et s'éloigna tout penaud. Ma mère vint me voir pendant la nuit. Elle pleurait. Nous pleurâmes ensemble. Elle me dit que j'avais bien fait de quitter la case paternelle, que mon père ne m'aimait pas comme un père devrait aimer son fils, qu'elle me bénissait et que si un jour je tombais malade, je n'aurais qu'à me baigner dans une rivière pour être guéri. Le père Gilbert me donna une culotte kaki et un tricot rouge qui firent l'admiration de tous les gamins de Fia qui vinrent demander au prêtre de les emmener avec lui. 2 jours plus tard, Le père Gilbert me prit sur sa motocyclette dont le bruit semait la panique dans tous les villages que nous traversions. Sa tournée avait duré 2 semaines. Nous rentrions à la mission catholique Saint-Pierre de Dangan. J'étais heureux. La vitesse me grisait. J'allais connaître la ville et les blancs et vivre comme eux. Je me suis prise à me comparer à ces perroquets sauvages que nous attirions au village avec des grains de maïs et qui restaient prisonniers de leur gourmandise. Ma mère disait souvent en riant:
Tundi, ta gourmandise te conduira loin.
Mes parents sont morts. Je ne suis jamais retourné au village. Maintenant que je suis à la mission catholique Saint-Pierre de Dangan, je me réveille tous les matins à 5 heures, et même plus tôt, parfois quand tous les prêtres sont à la mission. Je sonne Jésus, la petite cloche suspendue à l'entrée de la sacristie, puis j'attends le premier père pour la messe. Il m'arrive de servir 3 ou 4 messes par jour. La peau de mes genoux est devenue aussi dure que celle d'un crocodile. Maintenant, j'ai l'impression de m'agenouiller sur des coussins. J'aime surtout la distribution de la communion le dimanche. Tous les fidèles se présentent à la sainte table, yeux fermés, bouche ouverte, langue tendue, comme s'ils faisaient une grimace. Les blancs ont leur sainte table à part. Ils n'ont pas de belles dents. J'aime caresser les jeunes filles blanches sous le menton avec la patène que je leur présente lorsque le prêtre leur introduit l'hostie dans la bouche. C'est le boy d'un prêtre Yaoundé qui m'a appris le truc. C'est par ce moyen que nous pouvons les caresser. Une vieille femme de la Siksa, une espèce d'internat pour les futures chrétiennes, à marier ou non, et les chrétiennes ayant quitté leur famille païenne, nous prépare à manger. Nous préférons les reliefs du repas des prêtres. C'est là que nous pouvons trouver des morceaux de viande. Je dois ce que je suis devenu au père Gilbert. Je l'aime beaucoup, mon bienfaiteur. C'est un homme gai qui, lorsque j'étais petit, me considérait comme un petit animal familier. Il aimait tirer mes oreilles et, pendant ma longue éducation, il s'est beaucoup amusé de mes émerveillements. Il me présente à tous les blancs qui viennent à la mission comme son chef-d'œuvre. Je suis son boy, un boy qui sait lire et écrire, servir la messe, dresser le couvert, balayer sa chambre, faire son lit. Je ne gagne pas d'argent. De temps en temps, le prêtre me fait cadeau d'une vieille chemise ou d'un vieux pantalon. Le père Gilbert m'a connu nu comme un ver. Il m'a appris à lire et à écrire. Rien ne vaut cette richesse, bien que je sache maintenant ce que c'est que d'être mal habillé.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Présentation et réalisation Aoussi Potin.